Aime l'été. Que oui, on aime l'été avec tous ces beaux sujets qu'on vous propose tous les jours de midi à 1h sur nos ondes. Avec aujourd'hui la Carpagnement transport interurbain par autocar à 20 ans. C'est un anniversaire que nous allons fêter avec le directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus du Québec. Planète F, ça c'est un magazine famille plutôt réinventé, nous dira son éditrice, rédactrice en chef et fondatrice de Planète F, Marie-Ève Paradis. Et puis je vais aussi m'entretenir avec Muriel Robin, directrice générale et fondatrice de Cover Dressing. C'est en France, figurez-vous, et ce sont des gens bien sympathiques qui ont développé une expertise sur l'habillage des personnes à mobilité réduite, en croisant les approches de professionnels de la santé, de la mode et de personnes handicapées. Et puis enfin, Gaëlle Ouellette, présidente et directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines, nous parlera de la conférence nationale de la famille de la société MPS, autrement dit, et là je respire, de la mucopolysaccharide et maladies reliées. C'est aussi quelques nouvelles que voici. Les personnes handicapées et autochtones pratiquement invisibles à la télé. C'était sur le site de Radio-Canada, mais on a vu un papier également sortir sur le sujet dans Le Devoir. La représentation de la diversité canadienne au petit écran se serait améliorée au fil des années, mais les personnes autochtones et handicapées peinent toujours à s'y tailler une place, selon les participants d'une recherche pour le compte du Conseil de la radio et des télécommunications canadiennes, autrement dit le CRTC. Ce rapport, déposé en mars, mais rendu public seulement dans les derniers jours, constate que si les téléspectateurs sondés observent une représentation plus juste des minorités ethno-culturelles, des femmes et de la communauté LGBT, les personnes handicapées et autochtones n'auraient pas profité du même sort. C'est la conclusion de 6 groupes de discussion tenus à la mi-janvier à Toronto, Ottawa, Montréal, Halifax, Vancouver et Québec. La firme Phoenix SPI a demandé aux participants de se prononcer sur l'énoncé « La télévision canadienne devient un miroir dans lequel tous les Canadiens peuvent se voir ». Un peu plus de la moitié ont exprimé leur désaccord, alors qu'un peu plus du quart d'entre eux partageaient cet avis. Selon plusieurs participants, les personnes autochtones sont pratiquement invisibles sur les réseaux canadiens et sont sinon dépeintes au moyen de stéréotypes, soit en tant que personnes pauvres, alcooliques ou qui inhalent de la colle et de l'essence. Quant aux personnes handicapées, les participants les ont jugées peu présentes, mais habituellement bien décrites. La couverture journalistique d'enjeux concernant les divers segments de la population a pour sa part été qualifiée d'adéquate, mais sans surprise. Les participants ont réclamé qu'une plus grande importance soit allouée aux nouvelles concernant leur propre communauté. Malgré la levée de boucliers des artisans de ce secteur culturel, les analystes disaient ne pas anticiper pour autant une baisse du financement des séries, des documentaires ou des galas canadiens. La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, s'est engagée à dévoiler d'ici la fin de l'année son projet de réforme du paysage des télécommunications. Maltraitance envers les aînés et les personnes en situation de vulnérabilité, ce sont des nouvelles obligations de dénoncer pour les CPA. C'est un avis de l'Ordre des CPA du Québec que je vous lis maintenant, du moins en partie, par bribes. La loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, entrée en vigueur le 30 mai 2017, contient 2 dispositions visant spécifiquement la levée du secret professionnel pour autoriser le signalement par les professionnels de situations de maltraitance envers des aînés ou des personnes vulnérables. D'abord, l'article 22, qui modifie la définition de blessure grave de l'article 60.4 du Code des professions de façon à permettre la levée du secret professionnel pour signaler des situations de maltraitance dont pourraient être victimes des aînés ou des personnes en situation de vulnérabilité. Et l'article 18.1 qui crée une obligation pour les prestataires de services de santé et les professionnels, sauf les avocats et les notaires, de signaler une situation de maltraitance envers un aîné ou une personne en situation de vulnérabilité qui se trouve en CHSLD ou qui fait l'objet d'un régime de protection, tutelle, curatelle ou mandat d'inaptitude homologué. Cette divulgation, se fait malgré le secret professionnel. Le CPA a l'obligation de signaler une situation de maltraitance lorsque l'aîné ou la personne vulnérable se trouve en CHSLD ou lorsqu'elle est sous tutelle ou sous curatelle ou qu'un mandat pour cause d'inaptitude la concernant a été homologué. Dans tout autre contexte, le CPA peut faire un signalement lorsque la situation est visée par l'article 60.4 du Code des professions. Le signalement obligatoire d'une situation de maltraitance visée à l'article 18.1 doit être fait au commissaire aux plaintes de l'établissement de santé si la personne que l'on veut protéger se trouve hébergée en CHSLD ou dans un autre établissement de santé. Dans les autres cas, il doit être fait à un corps de police. L'ordre mettra dans les meilleurs délais à la disposition des membres des informations leur permettant de mieux se situer face à ces nouvelles obligations. Il poursuit par ailleurs ses démarches auprès des autorités législatives afin que la responsabilité accrue des professionnels soit partagée par les avocats et les notaires qui sont pour l'instant exclus de l'obligation de dénoncer. Depuis le mois d'avril dernier, ce sont près de 4 jeunes filles qui prennent part à l'activité de confection de bracelets. On trouve ce papier dans hebdorivenord.com. Il est certain que les dons de billes à bijoux et de fermoirs leur permettraient d'en créer davantage et ce, à moindre coût. En plus de mettre à profit leur créativité, leur motricité fine et leur capacité de concentration, la création de bijoux constituera aussi une activité de sociofinancement pour l'organisme en constante recherche de financement. Ça leur amène de la fierté et encore plus lorsqu'ils présentent leurs bijoux lors d'expositions ou qu'ils en font la livraison. Les jeunes s'appliquent et sont motivés, observe la présidente de DIDA, Suzanne Camden. La petite équipe a aussi eu la chance d'obtenir des conseils de coachs et d'expertes en matière de confection de bracelets pour bien maîtriser les rudiments liés à cet artisanat. Initialement, il s'agissait d'un projet pour sensibiliser les gens à la différence et à la capacité des personnes présentant une déficience intellectuelle, continue Madame Camden. Mais rapidement, d'autres aspects positifs ont été mis de l'avant avec l'apparition des créations DIDA, telles que la récupération, une valeur déjà bien ancrée dans la mission de l'organisme de Repentigny. La présidente de DIDA souhaite maintenant pouvoir être présente à différents événements estivaux, accompagnée des créatrices de bracelets, afin de présenter les bijoux au grand public. Alors pour faire don d'anciens bijoux ou billes à l'organisme DIDA, D-I-D-A, vous pouvez les apporter directement au point de service situé au 380 rue de La Rochelle, local 102, à Repentigny, les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 14h30. Et pour information, www.dida-intégration.org. Il y a parfois des services qui sont tellement importants que lorsqu'ils fêtent leurs 20 ans d'existence, eh bien Canalem a pour mission de s'intéresser à ce service-là. Bonjour Monsieur Luc Lafrance.
Bonjour Madame.
Alors Monsieur Lafrance, vous êtes le directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus du Québec et ce 20e anniversaire, eh bien c'est autour, c'est la carte québécoise à l'accompagnement en transport interurbain par autocar qui célèbre son 20e. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que cette carte-là, à quoi et à qui sert-elle?
Bien, cette carte-là sert aux personnes qui ont soit un handicap physique ou intellectuel, qui ne sont pas en mesure ou ne sont pas suffisamment autonomes pour utiliser les services du transport interurbain par autocar, d'être accompagnés de quelqu'un pour les aider. Et cette carte-là permet à l'accompagnant d'accéder à l'autocar gratuitement pour aider le passager.
D'accord. On parle de la ville de Québec et les environs?
Ben, je dirais que c'est à la grandeur de la province.
À la
Les lignes
grandeur de la
interurbaines,
province.
exemple de Montréal à Québec ou de Québec à Gaspé ou sur la Côte-Nord ou
Ah
encore
oui.
Montréal à Val-d'Or. Alors, c'est nos lignes, les lignes interurbaines à la grandeur de la province du Québec.
Alors là, ça veut dire que si, par exemple, moi, demain, j'accompagne une personne non-voyante, par exemple, en Gaspésie, je pourrais aller obtenir cette carte-là pour obtenir la totale gratuité sur le service. C'est bien ça?
Tout à fait. C'est la personne, je dirais, qui a le handicap qui fait la demande pour avoir une carte d'accompagnement.
Ah,
Elle
d'accord.
peut l'utiliser pour que quelqu'un l'accompagne pour ses déplacements.
D'accord. Alors, quand on parle d'incapacité, on parle de quelles incapacités, Monsieur Luc
Bah, c'est
Lachance?
pas, comme je disais, c'est pas seulement des incapacités physiques, ça peut être incapacité aussi au niveau de l'orientation spatiale, ça peut être l'incapacité à communiquer de façon verbale ou gestuelle,
D'accord.
où les personnes ne sont pas capables d'assurer leur propre sécurité. Alors, il y a différents types d'handicaps
Oui,
qui
bien
sont reliés
sûr.
à ces éléments-là. Alors, à partir du moment où ces personnes-là ont une validation de la part d'un médecin, ils peuvent faire une demande au bureau de la fédération et obtenir une carte d'accompagnement.
Alors, on fait la demande où exactement?
Ici, au bureau de la Fédération des transporteurs par autobus.
Alors, on vous trouve facilement sur Internet,
Oui,
Monsieur
on a un site
Lachance?
Internet. Oui, on a un site Internet. Vous pouvez facilement nous trouver. Ouais, je peux vous donner le site
Oui,
Internet.
s'il vous plaît.
C'est là, c'est un petit peu que je mette la main dessus.
Ben, est-ce que c'est simplement le www.fédérationautobus.com?
Fédérationautobus.com, c'est ça, tout
D'accord.
à fait. Oui.
Et puis là, ensuite, on clique sur carte à l'accompagnement, je
Carte à
pense, hein?
l'accompagnement et on vous donne les
D'accord.
détails et les façons de procéder. Et
D'accord.
on émet une carte à l'accompagnement. Je vous dirais que bon an, mal an, nous émettons soit des nouvelles cartes ou un renouvellement à peu près 500 cartes par année.
OK.
Et il y a environ 2500 personnes qui
Qui
bénéficient de ce
bénéficie.
service-là.
Mais de vous à moi, il pourrait certainement y en avoir beaucoup plus.
Ah, il pourrait y en avoir plus, que les gens nous fassent la demande et
OK.
ça posera pas de problème.
D'accord, non, c'est ça, mais c'est pour ça, parce que je me disais, est-ce que toutes les personnes qui pourraient en bénéficier savent que ça existe, quoi? Je
Bah,
me demandais.
peut-être que, ouais, il y aurait peut-être besoin de faire un peu plus d'informations avec l'Office des personnes handicapées ou quelque chose
Oui.
du genre afin de faire connaître davantage ce service. Mais effectivement, je pense que les 2000 quelques cartes qui sont
Oui.
émises jusqu'à présent ne représentent qu'une infime partie des personnes
Oui,
qui
oui,
pourraient en avoir
oui.
besoin.
Bon, bah alors je suis d'autant plus contente qu'on vous ait appelé. Monsieur Lachance, dites-moi, la carte, elle est valide combien de temps?
Elle est valide de 5 ans.
D'accord. Et elle coûte
Et
combien?
la carte ne coûte rien.
La carte ne coûte rien. Bon.
Ne coûte rien. Il suffit juste d'avoir une information, une validation médicale. Et
D'accord.
nous, on procède à l'émission de la carte.
D'accord. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que tous les autobus sont adaptés, là. Il y a ça.
Ben, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tous les autobus,
Non,
mais
c'est ça.
normalement, il y a au moins quelques autobus par ligne interurbaine qui sont
D'accord.
adaptés pour
D'accord.
fauteuil roulant. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement un handicap physique. Ça peut
Non,
être
c'est
des gens
ça. Oui,
qui
bien
souffrent
sûr.
d'autisme ou souffrent d'autres troubles
C'est clair, c'est clair.
qui peuvent avoir accès à ça.
Bon, bah écoutez, Monsieur Lachance, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fédération des transporteurs d'ailleurs carrément par autobus du
Par autobus.
Québec. Pour les gens
Super.
qui nous écoutent, si vous désirez vous aussi vous procurer cette carte à l'accompagnement qui célèbre ses 20 ans, eh bien vous allez sur le site www.fédérationautobus en un seul mot.com. Merci beaucoup, Monsieur Lafrance.
Ça me fait plaisir.
Bonne journée.
Bonne journée.
Chagrin, une menace de pluie, des nouveaux. Songs à la mer, une lame de fond, l'ombre d'un immense marronnier, quelques assassins des donneurs de leçons, deux pays voisins qui se font la guerre comme des cons, trois pierres, quatre fleurs. Chose qui nous trahit. La mort de mon père, la voix d'un ami, des nouvelles de toi quand je m'ennuie, des nouvelles de toi quand je m'ennuie, des nouvelles de toi quand je m'ennuie.
La délicieuse voix de Bia mélangée à une autre, mais on a essayé de faire des recherches et on n'a pas trouvé de qui il s'agissait. Voilà, on accueille Marie-Ève maintenant Paradis, à qui je fais un petit signe. On va lui arranger son micro. Est-ce que tu peux venir, tu me dis, lui arranger son micro? Non, il touche pas Marie-Ève. Nous avons un technicien. Vous savez, ici, on fait tout ça en famille. Et nous avons Maurice qui va sauter dans le studio pour vous arranger ça. Voilà, c'est ça. Voilà.
Ah, puis là, parfait.
C'est parfait comme
Bonjour.
Ça. Bonjour Marie-Ève, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Vous. Marie-Ève, oui bien. Vous êtes éditrice, rédactrice en chef et fondatrice de Planète F.
Oui.
Qui dit éditrice, rédactrice, dit certainement écriture, magazine, quelque
oui,
part.
Oui, certainement. Oui, en fait, moi je suis une journaliste de profession.
D'accord.
Et ce magazine-là, c'est F pour famille, hein, parce qu'on s'adresse aux parents, aux intervenants aussi qui interviennent auprès des familles.
Mm-hmm.
Pour réfléchir sur les enjeux de société qui nous touchent. Je suis une mère de deux jeunes enfants, donc mm-hmm. j'avais aussi envie de participer à cette réflexion-là en apportant en fait différents points de vue, en réalisant aussi que l'information qu'on a, notamment sur Internet, elle dit beaucoup de choses et son contraire.
Ah.
Donc, on veut essayer d'arriver avec l'heure juste. Mais aussi sans dire nécessairement des conseils, des trucs là, pour mieux dormir la nuit ou des choses qui sont plus pratico-pratiques.
Okay.
On arrive davantage avec ben, comment ça fonctionne, par exemple, le sommeil de l'enfant. Donc, pour mieux okay. avoir, parce que les trucs, les conseils, moi, mes deux enfants ont 4 et 6 ans. Puis, dès la première année de ma fille, première année de vie de ma fille, je me suis rendu compte que les conseils, bien, on peut tous les essayer, mais ça ne fonctionne pas toujours. Donc, il y a un grand sentiment d'incompétence, en mm-hmm. fait, au moment où on se rend compte que tous les conseils, on les essaie, puis ça ne fonctionne pas.
Mm-hmm.
Donc,
mm-hmm.
c'est d'essayer de redonner, en fait, confiance, justement, en donnant une information la plus complète possible, mais sans nécessairement donner des trucs pratico-pratiques.
Alors, comment ça se... Il y a des réunions, il y a des... On se réunit, puis on se parle, puis on brasse.
Oui,
on fait
oui.
comment,
Marie-Ève? Oui, en fait, Planète F, c'est une équipe d'une trentaine de journalistes collaborateurs.
Okay.
On a aussi une vingtaine de blogueurs qui travaillent avec nous.
Oh, c'est gros, ça, alors, OK.
Oui, ben, puis on travaille beaucoup, en fait, en télétravail. On se réunit de temps à autre là, pour réfléchir les dossiers, parce que Planète F est sur le web... Tout d'abord, donc
oui.
la première chose qu'on a lancée il y a 3 ans, c'est le site web planetef.com où on a des actualités qui sont gratuites.
Mm-hmm.
On a aussi les chroniques, une fois par mois, des chroniques de science, différents thèmes
mm-hmm.
qui sont aussi gratuites. Et on a les dossiers qui, une fois à chaque 2 mois, et là, on épluche un sujet sur plusieurs angles.
Par exemple,
ben, on avait en septembre dernier un dossier sur les enfants différents et l'expérience des parents, en fait.
Mm-hmm.
Donc, la détresse parentale liée à le fait d'avoir un enfant à besoin particulier.
Mm-hmm.
Donc, on a eu une dizaine d'articles sur ce sujet-là. On a eu aussi un autre dossier sur la transformation des familles, à quel point on n'est plus dans un modèle papa-maman-bébé. Il y a des modèles de famille qui s'éclatent, hein, qui sont beaucoup plus différents qu'avant. Mm-hmm.
Papa, papa, bébé, maman, maman, bébé, par exemple.
Exactement.
Ou les familles reconstituées.
Oui, recomposées. Donc, de montrer aussi à quel point ça a un impact sur mm-hmm. toutes les sphères de la vie de ces familles-là, oui. mais de la société aussi, oui. parce qu'il faut s'adapter à ces nouvelles réalités familiales-là. Donc, on a parlé de ça. Puis là, le prochain qu'on prépare pour la rentrée, c'est un dossier sur l'alimentation.
OK. Oh!
Donc, on va aborder plein de trucs très intéressants, plein de sujets bien intéressants, notamment liés à comment ça se passe à l'école, l'alimentation
oui.
à l'école.
Oui, oui.
Donc, donc, le site web, ces dossiers-là sont derrière un mur payant, 25 $ par année pour y accéder. On a aussi reportage par mois qui nous permet d'avoir souvent un son de cloche de l'étranger. Comme
ah
là,
oui,
tout récemment, on a un reportage sur la Finlande et ces fameuses baby box qu'on appelle donc des boîtes pour les nouveaux parents et c'est l'État finlandais qui donne ça depuis 80 ans. Et c'est des boîtes où on a un minimum pour accueillir bébé. Donc, des vêtements, quelques couches... le minimum et la boîte, dans le bas de la boîte, il y a un petit matelas. Donc, le bébé peut dormir dans cette boîte-là le temps qu'on a tout ce dont on a besoin.
Mais c'est donc bien cute!
C'est très très pratique. Et en fait, en Finlande, on se tarde de dire qu'on a diminué la mortalité infantile grâce à cette petite baby box-là parce que les bébés ne dorment pas dans des endroits qui sont inadéquats.
Et
en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'Écosse, le 15 août prochain, mm-hmm. va faire aussi le saut d'une baby box comme ça, organisée par le gouvernement.
Par le gouvernement.
Il y en a ici au Canada, c'est un OSBL. Il y en a aussi en France, là, c'est une entreprise.
Ouais.
Donc, il y a différents modèles de ces baby box-là qui se promènent un peu partout dans le monde. Donc, on fait un peu le retour vers d'où c'est parti il y a 80 ans en Finlande. Et on parle aussi de la France. Des fois, ça nous arrive d'aller un peu partout dans le monde pour mieux comprendre la famille, comment ça se passe aussi
comment
ailleurs.
Ça se passe là-bas. Ouais. Et puis, peut-être prendre les bonnes idées et ne pas prendre les mauvaises idées.
C'est ça, c'est d'être inspirant et inspiré
bien
à la fois
bien
parce
sûr.
Que la famille, il y a quand même un enjeu très culturel derrière
mais
ça
oui,
aussi.
Mais oui.
Et je trouve que moi, comme parent, ça m'a aidé énormément aussi à voir ce qui se passait à l'étranger pour vraiment relativiser certaines pratiques culturelles qu'on a ici, qu'on ne pratique pas ailleurs, et de se dire, finalement, ce que je fais, c'est pas si mal, mon instinct est quand même pas mal. Donc, d'avoir un peu de recul par rapport à toute cette pression-là qu'on a un peu partout au-dessus de nos têtes.
Et puis, dites donc, vous avez des beaux projets à Planète F, comme Planète Famille, je le rappelle, pour les gens qui nous prendraient peut-être en cours de route.
Oui, donc Planète F a sorti, en fait, un premier magazine papier ce printemps se lance dans un deuxième numéro qui va sortir cet automne. Donc, on est bien contents de la réponse, en fait, du premier magazine. Il est toujours en vente sur notre boutique en ligne sur notre site. Et disponible aussi dans quelques boutiques familles là, indépendantes. Et alors, encore une fois, le but est de réfléchir. Et on parlait de l'aspect international. On l'amène beaucoup dans le magazine papier et on le pousse plus loin avec des illustrations données.
Ouais,
ce que le papier nous permet de faire,
exactement.
En fait, des belles illustrations pour voir ce qui se passe à l'étranger aussi.
Et puis, parlez-moi de ces capsules historiques. Sur le thème de la famille, c'est en septembre, ça? Hein?
Oui, c'est en septembre. En fait, nous, on célèbre le 375e de Montréal et le 150e de la Confédération à notre façon, en proposant 10 capsules historiques qui vont nous amener, encore une fois, à avoir un certain recul sur différents aspects de la parentalité et de la famille. On va parler de la présence des pères à l'accouchement. On pense que c'est relativement nouveau, mais quand on retourne beaucoup plus loin en arrière, les pères étaient beaucoup plus présents. Et c'est avec la médicalisation de l'accouchement qu'on a perdu, que les pères ont perdu un peu leur place auprès de leur conjointe.
Donc, c'est bon, mais c'est bon à savoir parce que honnêtement, moi, quand j'ai des images qui me traversent l'esprit, je vois toujours une femme accouchée toute seule dans la douleur et le mari qui est en bas et avec ses gros sabots. Et,
oui, ben on a en fait romantisé un peu, ouais, je pense. Hein, mais... on a des idées romantiques de ce qu'était la maternité ou l'accouchement, mais les pères étaient quand même relativement impliqués parce que lorsqu'il y avait notamment accouchement à la maison. On va parler aussi de la première famille qui est arrivée en Nouvelle-France,
oui?
Donc les Hébert-Rollet. On relate en fait l'histoire de cette première famille-là.
Okay.
On va parler aussi de la fondation de Sainte-Justine.
Oui.
On parle aussi de l'allaitement, hein, parce que c'est tout... Ça nous permet de mieux comprendre... pourquoi, par exemple, les femmes n'allaitaient pas dans les années 70-80, il y a eu un grand mouvement pour détacher la femme de son corps de mère.
Mm-hmm.
Donc, on explique tout ça avec Denise Baillargeon, une historienne vraiment fantastique. On va parler aussi des filles-mères, comment ça se passait dans le temps avec l'histoire notamment de Rosalie Jeté,
oui,
qui est maintenant une école secondaire pour les, oui, filles-mères. Oui. On parlait de vaccins, on parle aussi du droit des femmes, de la natalité, comment les courbes ont changé, de l'éducation sexuelle aussi.
Oui.
Donc, vraiment plein
gros
de...
Gros sujet, ça.
Oui,
ça,
oui.
Ça pourrait faire un petit peu comme l'alimentation, oui, ça pourrait faire l'objet d'un...
On a fait un dossier,
ah, oui,
en,
hein,
fait,
oui,
en février 2015,
d'accord,
qui est encore très d'actualité parce qu'on parle justement du projet pilote qui devrait arriver,
bon,
ou pas.
Oui. La petite musique nous indique qu'il ne nous reste plus qu'une minute, chère Marie-Ève.
Oui.
La transformation Planète F en entreprise d'économie sociale, c'est-à-dire, je vous dis, on va faire ça vite, mais
oui,
qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, Planète F souhaite pérenniser ses activités et,
okay,
se lance dans l'économie sociale, donc à but non lucratif, dans,
okay,
les prochains mois, pour justement s'assurer de continuer à faire du journalisme indépendant de qualité.
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Ève Paradis. Et j'espère que maintenant, les gens comme moi, d'ailleurs, nos auditeurs, vont un peu mieux connaître Planète F, F pour famille, je vous le rappelle, planètef.com, hein, pour avoir toutes les infos. Et
tout
pour,
à fait.
Voilà. Merci, Marie-Ève Paradis.
Merci.
À bientôt et bonne fin de journée.
Merci,
merci beaucoup. Aime l'été, la suite. Et là, mes amis, je vais faire un petit retour en arrière et je m'en vais dans mon ancien coin de pays, c'est le cas de le dire, parce que je m'en vais en Normandie, où je retrouve tout de suite Muriel Robin, directrice générale et fondatrice de Cover Dressing. Elle va tout nous expliquer. Bonjour, Madame Robin.
Bonjour, bonjour Clotilde.
Alors, je suis ravie de vous entendre. Là, les gens vont peut-être penser que c'est parce que je vous connaissais, parce que je suis normande aussi d'origine, mais pas du tout. C'est parce qu'on est tombé sur un papier qui parlait de vous et on s'est dit, mais c'est fantastique ce cover dressing-là. Alors, Madame Robin, j'aimerais que vous nous en parliez. Vous êtes au Havre, hein, en France.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Une ville qui fait ses 500 ans actuellement, oui.
OK, d'accord. Donc, c'est en Haute-Normandie pour les gens qui seraient intéressés à savoir à peu près où ça se trouve. C'est dans le département...
Etretat est peut-être un peu plus connu.
Voilà, c'est ça. Exactement, oui, exactement.
Et vous-même, vous étiez...
je suis de Rouen, moi, madame.
D'accord, on est voisines.
Ben, mais moi, j'étais, parce que ça fait plus de 30 ans maintenant que je ne suis plus d'ici et que je suis de Montréal. Mais Madame Robin, j'ai très hâte que vous nous parliez de cover dressing. De quoi s'agit-il?
Alors, c'est une association, hein, donc une association, c'est à but non lucratif, hein,
d'accord,
en France, qui existe depuis 4 ans,
mm-hmm,
et en fait, qui s'est créée sur un constat. L'une de mes amies s'est retrouvée en fauteuil roulant à la suite d'un accident opératoire, et là, on s'est rendu compte qu'on avait pu anticiper beaucoup de choses, mais on a oublié une chose pourtant essentielle, c'était son habillement. Elle ne rentrait plus du tout dans ses vêtements d'avant,
oui,
qui étaient devenus inconfortables et difficiles à enfiler. Et il lui a fallu reconstituer entièrement sa garde-robe. Alors, quand elle a interrogé le corps médical, donc je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, mais le corps médical n'avait absolument aucune préconisation à lui faire. Ils étaient complètement démunis, ce qui est assez paradoxal parce que les ergothérapeutes, par exemple, font des bilans gestuels des personnes. Mm-hmm. Donc, c'est quand même drôle qu'ils n'aient pas rapproché ça du vêtement.
Exactement.
Et voilà. Et on, ben voilà. Donc, elle a été renvoyée assez vite vers une mode dite adaptée, ouais, qui est plutôt vendue par le secteur paramédical. Donc, elle a dit non, merci.
C'est là, assez tristounet. Hein,
ça va pas du tout. Ah oui, et puis très cher en plus.
Donc, en plus
Et ben voilà. Donc, avec cette année, on a continué. On est allé faire du shopping. On a cherché des vêtements plutôt ergonomiques qu'on pouvait trouver dans le prêt-à-porter. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait. Alors, pas beaucoup. Hein, en moyenne, c'est entre 5 et 10% peut-être des collections.
Oui.
Mais sans savoir, les grandes chaînes de prêt-à-porter fabriquent des vêtements plutôt assez ergonomique.
Ah.
Donc c'est suite à ça qu'on s'est dit, y a quelque chose à faire, parce qu'en fait, chaque personne à mobilité réduite cherche dans son coin le vêtement qui peut lui convenir.
Ben oui.
Du coup, le shopping, c'est un petit peu un cauchemar pour tout le monde, alors que si on mettait toutes ces expertises individuelles ensemble, eh bien, ça faciliterait la vie de tout le monde, et puis ça éveillerait un petit peu l'industrie du prêt-à-porter à tous ces besoins qui ne sont pas du tout pris en compte et qui pourtant répondent à un grand nombre de personnes.
Ben oui, parce que c'est pas... Oui, absolument. Avez-vous remarqué que souvent, tout ce qui est dit spécialisé, vêtements spécialisés, c'est bien triste?
Ah oui, c'est tristouné. Puis souvent, c'est sans couleur, c'est sans sexe, on peut dire aussi.
C'est ça.
Ben voilà, on a le choix entre le marron et le bleu marine.
Ah oui,
c'est pas terrible. Hein.
C'est
pas du tout dans l'air du temps.
Non.
C'est tellement important, surtout quand on est en situation de handicap, de pouvoir s'habiller comme les autres,
bien sûr,
de pouvoir leur ressembler, et puis pour les personnes valides aussi, qui parfois sont pas très rassurées par le handicap, et bien de pouvoir voir que la personne en situation de handicap a la même chemise que soi, par exemple.
Ben oui.
On peut la glace et on se rend bien compte qu'on appartient au même monde, à la même humanité, à une même culture. Et voilà, ça aide à passer le pas. Donc
alors,
voilà pourquoi on s'est mis à créer un label.
Voilà. Et alors vous avez créé ce label qui s'appelle ?
Qui s'appelle le bien-à-porter.
Plutôt que le prêt-à-porter, simplement le bien-à-porter. Et vous êtes un groupe, hein, vous n'êtes pas toute seule, évidemment. Hein. Vous êtes bien entourée.
Quand on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait possibilité de faire émerger une nouvelle expertise quelque part, pour identifier tous ces vêtements les plus ergonomiques du prêt-à-porter, on a décidé de constituer une équipe composée déjà de plein de personnes à mobilité réduite pour tester les vêtements, mais aussi d'une ergothérapeute, de deux patronnières stylistes.
Oui, bien sûr.
Et puis tous ensemble, on a commencé déjà à faire plein d'essayages de vêtements. On essayait de repérer dans les rayons ceux qui nous semblaient plutôt bien. Et puis après, on les faisait essayer par une personne qui s'habille d'une main, plutôt au profil hémiplégique.
Ah, c'est ça. Une personne
qui s'habille assise, donc au profil plutôt paraplégique. Une personne qui s'habille avec un aidant. Et puis aussi par des personnes seniors en perte d'autonomie qui ont parfois des sensibilités cutanées plus fortes et des amplitudes articulaires réduites aussi. Et voilà, et du coup, on a pu déterminer à chaque fois pour les vêtements qu'on avait sélectionnés quel était le degré d'ergonomie de chaque vêtement et donc à qui il pouvait convenir. Et on a pu lancer notre label avec une première marque de prêt-à-porter masculin qui s'appelle Brice. En France, je ne sais pas si vous l'avez au Canada. Actuellement, on trouve dans les magasins Brice, sur les étiquettes des vêtements que l'on a labellisés, le petit logo bien-à-porter qui permet aux personnes de les reconnaître.
Ah, c'est fantastique. Et donc, j'imagine que là, vous rêvez du jour où on trouvera vos vêtements absolument partout, dans toutes les boutiques, quoi. Parce que ce qu'il va falloir aussi, c'est que de la même façon que j'imagine que chez vous, on parle beaucoup d'inclusion des personnes à mobilité réduite, il va falloir aussi que les vêtements, à un moment donné, soient inclus partout, qu'on puisse en trouver partout, pas juste dans des pharmacies, Seigneur.
Ah bah tout à fait, ça fait partie de l'inclusion et de l'accessibilité
universelle.
Surtout à une époque où en France, il y a une loi depuis 2005 qui impose notamment aux boutiques, aux groupes de prêt-à-porter, de rendre leur boutique accessible aux personnes en fauteuil.
Oui.
Donc je leur dis à chaque fois, mais à quoi bon faire des travaux dans votre boutique si si ce n'est que pour reculer la frustration, si vous ne savez pas quoi vendre à la personne qui va
entrer
dans votre boutique.
Exactement.
Et c'est effectivement le cas, hein, parce que les vendeurs et vendeuses sont complètement démunis.
Bien
ils
sûr.
Ne connaissent pas le besoin des besoins spécifiques.
Est-ce que...
Ils sont formés au conseil en images, mais pas au conseil technique.
Exactement. Écoutez, je parlais notamment, j'ai un ami qui est une personne de petite taille, comme on dit ici au Québec, et qui me disait, mais moi, je n'arrive pas à me trouver un manteau d'hiver. Et Dieu sait, c'est les manteaux d'hiver ici, au Québec, vous comprendrez bien qu'on en a besoin, quoi. Et là, il me dit, parce que moi, si je vais chez les enfants, tout est petit, mais il dit, moi, j'ai le dos large comme un adulte, mais sauf que je suis de petite taille. Alors, est-ce que vous travaillez aussi pour les personnes de petite taille, Madame Robin?
Alors, pas encore, mais on compte bien le faire, justement.
Oui.
Alors, c'est pour ça que pour aller plus vite, quelque part, parce que c'est quand même long de travailler sur une expertise, de la construire, et puis en plus, on a fabriqué un logiciel qui nous aide à une analyse fine et qui nous permet de développer de nouveaux cahiers des charges. Donc, histoire d'aller plus loin, on a donc associé le maximum de personnes à mobilité réduite dans un premier temps à notre développement.
Oui.
Mais justement, on vient de développer, et là, du coup, si on pouvait avoir des relais du côté de chez vous au Canada, ce serait super. On vient de développer un réseau social habillement et handicap. Donc sur notre site bienapporter.com, on trouve d'une part les vêtements qu'on a pu labelliser dans les boutiques.
D'accord.
Là, c'est exclusivement la marque Brice. Mais de l'autre côté, on trouve les vêtements repérés par notre communauté de personnes en situation de handicap. Et c'est tout frais, en fait, puisqu'on vient quasiment de le mettre en ligne. Donc, il y a encore des petites choses qui ne fonctionnent pas très bien.
D'accord.
Ça va s'améliorer dans les jours à venir et les semaines à venir. Et le but, c'est que toutes les personnes ayant une problématique par rapport aux vêtements puissent s'inscrire, ouvrir un compte. Et quand elles trouvent quelque chose qui leur convient bien, eh bien, elles le présentent sur le site, ce qui permet à d'autres personnes ayant la même problématique d'avoir un bon tuyau.
Exactement.
Quoi, d'éviter de perdre son temps à chercher.
Est-ce que vous faites de la livraison? Par exemple, si quelqu'un ici à Montréal, ou partout d'ailleurs, pas seulement Montréal, mais dans la province, bien sûr, du Québec, qui allait sur votre site, bienapporter.com, si la personne repère quelque chose qui l'intéresse, est-ce qu'elle peut passer une commande?
En fait, nous, on ne fabrique pas de vêtements. Donc,
d'accord.
On ne livre pas de vêtements. En fait, on repère dans les boutiques existantes
d'accord.
les vêtements qui existent.
Donc, d'accord.
Je ne sais pas si vous avez aussi, comme nous, on est en France, les chaînes comme Promode, Camailleux.
Non, ça n'existe pas ici.
D'accord.
Mais ça fait rien. Mais moi, j'avais quand même envie qu'on s'en parle, Muriel, parce que je voudrais que cela donne d'autres idées. Je voudrais que ça donne des idées à des gens de chez nous de monter également une association comme celle-ci qui puisse aller repérer des vêtements qui ne sont pas faits peut-être au départ pour des personnes handicapées, mais qui pourraient le devenir, et des vêtements faciles à porter et à enfiler pour tout type de handicap, quoi, hein. J'ai bien compris, c'est ce que vous proposez.
Si quelqu'un, nous on est prêts même à développer des antennes un peu partout dans le monde, hein.
Oui.
Donc puisqu'on a développé une expertise et un logiciel qui contient toute cette expertise, et le travail, il est déjà mâché. Donc, au contraire, si des personnes voulaient développer une communauté d'ambassadeurs shopping et puis d'analystes en même temps, hein, pour analyser les vêtements, de testeurs, etc., c'est volontiers que nous, on peut soutenir ce développement-là sur votre territoire.
Écoutez, ce serait vraiment formidable, et j'espère vraiment, vraiment beaucoup que cette entrevue va donner des envies, des idées à des gens qui nous écoutent. Je ne saurais que trop vous recommander, moi-même j'y suis allée, d'aller sur le site www.bienapporter.com, donc bienapporter en un seul mot.com, et prendre contact avec vous, Muriel, et avec votre équipe.
Ah, tout à fait. On a une page Facebook Bienapporter.
Ah oui.
Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, nous, on peut publier aussi les bons plans que l'on trouve sur le Canada.
D'accord.
Donc, au contraire, c'est bien volontiers.
Génial.
Développons ça, parce que en fait, c'est une vraie bagarre, comme vous parliez d'inclusion tout à l'heure.
Oui, absolument.
Le milieu de la mode est encore très fermé, parce que les valeurs de la mode sont vraiment élitistes. Hein,
exactement.
Et c'est à nous de rentrer dans les vêtements qui existent, alors que ça devrait être le contraire.
Exactement.
Donc,
parce que déjà que c'est vrai pour les tailles différentes, alors imaginons en plus, lorsqu'on vit avec un handicap, quoi, c'est pire encore.
Bien sûr. Et puis les valeurs de la mode, en tout cas en France, c'est vraiment le cas, elles sont vraiment élitistes.
Oui, oui, absolument.
Donc, exclure pour la mode, ça fait partie quasiment de ces valeurs.
Ah oui,
donc,
ah oui.
Donc nous,
oui, oui.
On se bat vraiment justement pour lutter contre ça. Et heureusement, il y a un air du temps qui est plutôt propice.
Oui.
Une première marque qui nous a entendus, donc on pense qu'on va pouvoir se développer
oui.
Voilà, avec de la patience mais, oui. et de l'acharnement, oui. mais on va y arriver.
Espérons même que votre nouveau président, qui semble, ma foi, très enclin à vouloir aider les personnes handicapées. Espérons qu'ils tiennent parole aussi. Hein.
Ah ce oui, serait bien. Je vous ai demandé rendez-vous, donc il n'y a plus qu'à attendre. Voilà.
D'accord. Alors Muriel Robin, je rappelle que vous êtes située au Havre en France et qu'on peut faire mieux connaissance avec votre collection Bien à Porter simplement en allant sur le site bienaporter.com. Merci beaucoup d'abord pour cette initiative, pour avoir créé cette association-là et tant mieux si ça fait des petits par chez nous.
Ah oui, ah, tout à fait, tant mieux, et vraiment je suis disponible pour accompagner ou pour aider ou pour conseiller toute personne qui voudrait s'y mettre.
Merci Muriel, puis, merci beaucoup.
C'est vraiment plaisir que vous m'ayez invité à en parler sur votre radio, vraiment Clotilde, je vous remercie beaucoup et merci à Sylvie aussi.
Oui, un absolument, merci à vous toutes et à vous tous hein, de votre équipe et bonne journée. Au revoir.
Oui, bonne journée vous aussi, au revoir.
Santa Fe, je t'ai trompé. À Singapour, c'était ton tour. À Saint-Tropez, pour un pédé marié. Le jour d'avant, pour son amant. San Pedro, macho, mazo, a Sosua, sous la veranda, a Hollywood, Hollywood, mon amour, je n'aimerai toujours que toi,
à Montpellier. À Saint-Maurice, pour une actrice. Wow. À Osaka, pour une geisha. À l'île des Sorts, pour un pêcheur. C'est comme ça.
Hollywood.
Anne-Victor sur les ondes de Canal M et toujours M l'été qui va s'achever dans une douzaine de minutes. Mais avant cela, j'avais très hâte de pouvoir parler avec Gaëlle Ouellette, présidente et directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, je vais bien, merci.
Bon, Gaëlle, du 21 au 23 juillet prochain, va se tenir à Montréal la Conférence nationale de la famille, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle?
Oui, conférence familiale des familles.
Voilà, ouais. C'est ça. Il y a comme, effectivement, j'ai vu comme plusieurs appellations à droite et à gauche. Et ça a été créé par la Société canadienne des mucopolysaccharides. C'est bien ça, donc, et la Société canadienne MPS.
Oui, MPS pour mucopolysaccharidose.
Ah, oui. D'accord. Bon. Alors là, on est parti pour des mots compliqués, mais surtout pour des maladies compliquées et pour des gens qui se sentent très seuls quand ils en sont atteints.
Oui, certainement. C'est encore une de ces... c'est une catégorie, en fait, de quelques maladies là, qui font partie des maladies rares et orphelines. En fait, mucopolysaccharidose, c'est une grosse molécule de sucre complexe. On a plusieurs types et puis ce sont des maladies héréditaires rares là, lorsqu'il y a un défaut génétique.
Oui.
Il y en a en fait 7 types, là, on les appelle les MPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, mais en fait il y a des sous-types, ça fait 13 différentes maladies au total. En fait, chacune, c'est une enzyme spécifique qui est déficiente. Cette enzyme-là est supposée de dégrader la mucopolysaccharide qui est spécifique à cette enzyme-là. Mais comme l'enzyme ne fonctionne pas, ben ces grosses molécules de sucre s'accumulent dans les tissus. Ça peut être dans le cœur, les os, les jointures, les poumons, le système nerveux même, puis ça cause des dommages progressivement. Donc, comme c'est des maladies héréditaires, ben en fait, c'est déjà présent chez le bébé atteint, mais ça paraît pas nécessairement tout de suite. Puis au cours des premières années, là, il y a des symptômes qui apparaissent. Puis c'est progressif, hein, ça va rester toute la vie, là. Donc c'est ça. Il y a aussi cette société-là s'occupe aussi de d'autres types de ces maladies qui sont semblables, là, les mucolipidoses puis les oligosaccharidoses. Et au total, là, ça fait une autre 14 maladies. Fait que, mais disons, presque 30 maladies là, différentes.
Bon, alors, il va donc y avoir ce rassemblement en fin de semaine. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de spécialistes qui seront là.
Exactement. Le but de ces conférences-là, qu'ils organisent à chaque 2 ans, c'est la première fois en fait que c'est fait, qu'elle se tient à Montréal, donc elle va être bilingue et les personnes, les familles québécoises vont pouvoir plus en profiter. Là,
d'accord, oui, bien sûr.
Le thème, c'est « Vivez votre meilleure vie ». Et pendant 2 jours, le but, c'est toujours de transmettre là, de l'information pratique pour les personnes et les familles. Donc, il y a des médecins qui vont parler de la maladie, des traitements, il y a des chercheurs qui vont parler des recherches, des essais cliniques, d'autres professionnels de la santé, par exemple, il va y avoir un atelier en ergothérapie, il y a des aspects psychologiques, on va parler de la transition pédiatrie à adulte. Et c'est très, très convivial pour les familles. Il y a des activités organisées pour les enfants, puis...
OK. Alors, vous-même, vous allez donner une conférence, hein? C'est bien ça,
oui,
Gaëlle Ouellette?
En fait, moi, ça va être une conférence plus générale
d'accord.
sur ces maladies-là comme telles, mais sur, en fait, c'est vivre votre meilleure vie avec une maladie rare. C'est engager, c'est pour leur dire de s'engager dans leurs propres soins et dans la recherche.
D'accord.
En fait, c'est avec C'est une des initiatives maintenant au Regroupement québécois des maladies orphelines où on veut inciter et donner les moyens le plus facile pour que les personnes avec des maladies rares puissent s'impliquer eux-mêmes dans leurs soins et dans la recherche. Donc, il y a par exemple, au lieu d'attendre que des chercheurs viennent les recruter pour une recherche, maintenant, il y a des groupes, il y a des bases de données, il y a des registres de patients, il y a des biobanques où ils peuvent participer eux-mêmes. Et ça donne, en fait, de l'espoir, là, que le fait qu'ils puissent participer.
Bien sûr.
Et c'est souvent au niveau international parce qu'on ne peut pas compter sur la recherche sur toutes les maladies juste au Québec. Puis pour les maladies rares, étant donné qu'ils sont rares, il faut des collaborations internationales. Fait qu'on veut, je vais présenter toutes ces opportunités-là maintenant, ces initiatives, et même dans leurs propres soins, comment ils peuvent plus s'engager avec leur équipe de santé, de soins de santé, avec leur médecin pour des décisions partagées par rapport à des traitements, la prise en charge. Alors, c'est il y a beaucoup de nouvelles initiatives dans ce domaine-là, puis j'aimerais ça qu'ils en prennent connaissance.
Bien sûr. Alors, dites-moi, ça se passe où exactement et il faut s'inscrire? Comment ça se passe?
Oui, ben c'est au Delta Marriott Hotel à Montréal.
Oui.
Ça commence vendredi soir, c'est jusqu'à dimanche, fin de l'après-midi. Puis bon, en principe, là, je me suis informée parce que c'est des choses organisées d'avance. En principe, c'est complet, mais s'il y a quelqu'un qui nous entend, là, puis que c'est la première fois qu'il entend parler, c'est bien beau, ils peuvent communiquer avec le Canadian MPS Society, là, ils peuvent aller, en fait, sur notre page Facebook à nous, le Regroupement québécois des maladies orphelines. L'information est là, où ils peuvent communiquer avec nous, mais ce sera possible d'organiser,
d'accord,
qu'ils puissent participer. Puis c'est une société très, très active, là, avec beaucoup de ressources pour les familles atteintes de ces maladies-là. Donc, ça vaut la peine aussi de visiter le site du Canadian MPS Society,
la
Société canadienne des MPS, pour voir tout ce qu'ils peuvent offrir là, comme soutien.
Oui. Et comme solution éventuelle.
Oui.
Eh bien, écoutez, Gaëlle Ouellette, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes la présidente et directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines et que c'est donc du 21 au 23 juillet que se tiendra à Montréal cette conférence des familles au Delta Marriott. Hein, c'est bien ça.
Oui, c'est ça.
Alors, merci infiniment d'avoir répondu à ces questions. Je vous souhaite une belle journée et puis une belle fin de semaine.
Merci à vous.
Je vous en prie. Allez, au revoir. Quelques nouvelles en rafale maintenant. Le rendez-vous 2017 des Grands Voiliers s'arrêtera à Québec, à Québec et Lévis, du 18 au 23 juillet prochain. Alors, parmi les 38 navires présents, deux seront accessibles pour les personnes à mobilité réduite, soit le Lord Nelson et le Impossible Dream. Un débarcadère du STAC est prévu au 144 Dalhousie pour vous permettre d'avoir accès au site. D'ailleurs, il y a un plan de ce dernier qui permet de visualiser les zones facilement accessibles. Ce sont des zones qui sont en jaune. Et puis, finalement, il faut aussi que vous sachiez que chaque station de toilette sur le site comprend une toilette adaptée. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez visiter le www.rdv2017, donc www.rdv2017.com comme rendez-vous2017.com. Alors, profitez bien de cet événement hors du commun et puis oui, surtout, partagez les photos, hein, partagez les photos. L'INCA nous fait savoir que notre premier théâtre d'été universellement accessible présentera la comédie Camping Giroux de Bernard Ride en théâtre description. les 19 et 20 août prochains au magnifique Théâtre de la Grangerie au 5475 boulevard Saint-Martin-Ouest à Laval, près de l'autoroute 13. Alors, pour plus d'informations ou réservation de billets, on peut communiquer avec le 450-937-1300. 450-937-1300. Voilà, c'était Aime l'été, présenté pour vous par Clotilde Seille, qui remercie infiniment toute son équipe et les invités d'aujourd'hui, ainsi que Maurice Bolduc en régie à la technique aujourd'hui. Bonjour à vous toutes et vous tous, bonne journée, à demain midi.